Et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission de Brisons la glace. Nous sommes le jeudi 30 mars. Brisons la glace, c'est le programme en français de Norvège. Nous sommes situés à Oslo. Et pour la deuxième fois aujourd'hui, nous enregistrons à la bibliothèque d'Ekman. Autour de la table, nous avons Valentin. Bonsoir Valentin.
Salut.
Alors toi, tu vas nous parler d'histoire.
Oui, pas comme d'habitude, hein. On ne change pas.
Une petite chronique historique. Et nous avons aussi Alice. Bonsoir Alice.
Bonsoir.
Alors toujours un peu dans le modèle société, encore un nouveau sujet.
Oui, je vais parler de chirurgie esthétique.
Super. Et nous avons le rendez-vous tech.
Ah ouais, vous me connaissez, moi j'aime le turfu. non, on va aller débattre de l'intelligence artificielle, gros sujet bouillant d'actualité.
Et ouais, j'ai suivi avec beaucoup d'attention. Mais je voulais commencer par vous interpeller parce que cette semaine, je lisais un petit peu les actus sur thelocal.no et j'ai vu un article passer comme quoi les Suédois viennent faire leurs courses en Norvège. Et ça, si c'est pas incroyable, parce que pendant des années,
c'est plutôt l'inverse.
C'est plutôt les Norvégiens qui viennent faire leurs courses en Suède et là, ça change.
Bah écoute, tu nous apprends quelque chose et viens acheter quoi en Norvège? Sans doute pas de l'alcool.
Si, et justement, l'alcool, le prix de l'alcool a baissé, puisqu'en fait, il disait que la couronne norvégienne s'est effondrée.
Oui, ouais. Totalement.
Donc, en fait, ça devient intéressant pour les Suédois et même pour acheter des commodités du style des bananes, des produits laitiers. J'en passe vraiment.
Donc, on serait en phase de ne plus être dans le top des pays les plus chers du monde?
Si, c'est pas incroyable ça?
Oui, puis il y a même pas mal de témoignages qui remontent de France qui disent que faire ses courses en France, c'est presque devenu aussi cher que de les faire en Norvège.
Non.
Si. Les paniers de courses explosent.
Oui, mais nos paniers de courses explosent aussi. Enfin, je ne sais pas vous, mais le mien a explosé.
Il y a une inflation aussi en Norvège, mais là c'est plus. Du coup, là, je pense que c'est plus attirant d'un point de vue, du point de vue de la Suède de venir faire ses courses en Norvège du fait d'un cours de la monnaie, en fait. C'est même pas dû à l'inflation. Mais c'est vrai qu'en septembre, déjà, les gens allaient faire au moins leur... Je savais que les gens allaient faire leurs courses au moins pour l'alcool en Suède, depuis la Norvège. Donc, c'est assez surprenant.
Alors, ils disent le prix annuel en Norvège... pour la nourriture et les boissons non alcoolisées sont vraiment descendues de 12% à 8,8% en février. Donc le taux annuel a vraiment chuté de 4%. C'est énorme.
Mais oui, c'est énorme. Et très surprenant, ça va à l'encontre.
Et dans la même période, en Suède, on est passé à 21,6% d'augmentation. Et en fait, ouais, c'est ça, la couronne norvégienne a perdu 7% contre la couronne suédoise. Donc en fait, plus besoin d'aller en Suède pour aller faire ses courses. Il vaut mieux rester ici.
Il vaut mieux même partir en vacances en Norvège plutôt qu'en France, du coup.
C'est vrai que j'étais moins impressionné. Enfin, j'étais venu en septembre ici et ensuite je suis revenu du coup en janvier. Et j'étais moins impressionné par le prix en euros que je pouvais payer en fait ici.
Ouais.
Et j'étais du coup agréablement surpris en fait en janvier.
J'ai l'impression que le prix de mes courses a baissé aussi. Autant le prix de l'abonnement Reuters ou tout ça, il a augmenté. Mais j'ai l'impression que je paye moins cher mes courses depuis janvier.
Ah écoute, moi je n'ai pas du tout ce sentiment, je dois être à côté de la plaque.
Dans la liste des choses que les Suédois achètent, donc on a les bananes, le brocoli, les poivrons rouges, les carottes, les oranges, le muesli, les couches culottes.
Les couches culottes, ça c'est un vaste sujet, ouais.
Et tout ça c'est moins cher.
Ouais, les couches culottes ça a toujours été, je crois. Ça, il y a toujours eu un truc. Non, mais justement, comme la Norvège est quand même très proche de ses taux de natalité et qu'on encourage à faire des enfants, tout ça, les couches culottes font partie un peu des produits essentiels et des produits qui sont extrêmement peu chers en Norvège. Moi, j'ai l'exemple de Norvégiens qui sont partis à l'étranger, par exemple avec des bébés. En général, ils emmènent des tonnes de couches, c'est-à-dire, tu vas en Amérique du Sud, au Mexique, en Costa Rica.
Ils ramènent leurs couches.
Alors, non seulement ils ramènent leurs couches, mais en plus, ils en ramènent qu'ils donnent aux locaux.
Ah ouais.
Parce que, justement, ça coûte rien du tout, alors que là-bas, c'est compliqué à trouver, ça coûte très cher. Voilà, il y a des trafics de couches-culottes, même, je pense qu'ils se sont mis en place.
Il y a un truc à faire en France, du coup, un échange de couches-culottes contre fromage.
Ah ouais, c'est vrai, ou quand pour démarrer un business.
Pas très ragoûtant, mais...
Ouais. Une bonne bouteille de vin, moi, je suis pas contre. Hein.
Ah bah, ça. Oui, parce qu'on n'a pas d'enfants, donc on peut les acheter, les couches. Hein.
Non, c'est ça, puis ça fait...
Et la deuxième histoire dans ce problème, c'est qu'en fait, il y a aussi Kiwi qui s'est positionné depuis février, qui a décidé de ne pas augmenter leur prix. Ils n'arrêtent pas de balancer de la pub comme quoi ils n'ont pas augmenté leur prix. Et bien du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec Coupe Extra et Réma 1000 et ben,
rappelons que ce sont des marques de supermarchés qu'on trouve en France, ça. Qu'on trouve en Norvège, pardon.
Oui. Oui. Donc Kiwi,
les auditeurs qui nous écoutent,
les auditeurs où que vous soyez, hein, de toute façon, voilà. On a un supermarché qui est un petit peu le discount de Norvège, c'est Kiwi, et eux ils ont décidé de pas augmenter en fait au mois de février. Et en fait, ben, ils ont obligé Coupe Extra et Réma 1000 de suivre, sinon ils allaient se péter la gueule au niveau commercial. Donc c'est un petit peu aussi pour ça, grâce à Kiwi, que notre panier de courses est n'augmente pas trop.
Ça se voit en plus. Moi, je suis tout le temps, quand je dois faire des dépannages, je vais au Extra. Hier, je suis allée au Kiwi et je regardais, bon, je me baladais, je me dis putain, c'est pas cher.
C'est rare de se dire ça ici.
Ouais, non, rien, je regardais le prix de l'huile et tout, je me disais ok. Parce que je cherche toujours les bons plans. Quand on va faire les courses, on fait trois magasins différents pour vraiment payer le moins cher possible. Et Kiwi, ouais, effectivement, ils ont bien maintenu leur prix.
Merci.
Enfin voilà, affaire à suivre. D'ailleurs, si nos auditeurs, vous avez une remarque, si vous avez aussi des témoignages sur ça, vous pouvez toujours commenter. On publiera notre émission sur Facebook. Vous pouvez nous faire un petit commentaire, sans souci. Pour faire une petite transition, le week-end arrive et j'avais un petit agenda à vous proposer. Donc, je ne sais pas si vous avez des plans ou pas. Mais ce vendredi, donc dès demain, il y a un festival reggae qui arrive à Osmania. Je ne connais pas du tout ce...
Jalove. Osmania, c'est cool. C'est... Alors Osmania, ouais, c'est cool. C'est un squat d'artistes plutôt. C'est un des rares endroits à Oslo, justement, qui est squatté. Hein, et à la fois toléré, parce que c'est un super centre culturel où ils font justement plein de soirées, plein d'événements.
Et en fait, ils accueillent le Oslo IRI Festival, je ne sais pas comment on prononce d'ailleurs. Et ça démarre à 20h avec un artiste londonien, Oxman, Jonah and Dynamic D de Birmingham et Selecta Harmony, Get Ready Crew. Ça va swinguer pas mal pour cette ouverture de festival qui va durer tout le week-end.
Ça commence le vendredi du coup à 20h, c'est ça?
Ouais, voilà. Après, si vous avez des enfants, des ados plutôt de moins de 18 ans, je ne sais pas si vous avez entendu parler que Parc Théâtel fait des soirées spéciales pour les ados. Donc, c'est vraiment que pour les moins de 18. Donc, voilà. Donc, il y a un concert vendredi de Juno. C'est un groupe de jazz originaire de Trondheim qui sera donc en concert. Alors, c'est assez rigolo parce que donc, le groupe fera un concert pour les moins de 18 ans et après fait le concert normal, entre guillemets, deux concerts d'affilée.
Est-ce que tu sais pourquoi ils font ça?
Dis-nous tout.
Non, à cause de la bière. Figurez-vous que si vous avez des enfants, que vous décidez d'emmener votre fils de 16 ans à un concert en Norvège, ça va être très très compliqué, même pour vous de prendre une bière ou voire d'emmener votre enfant à ce concert. C'est pour ça qu'ils font des concerts réservés uniquement aux moins de 18 ans.
Sans alcool.
Sans alcool, parce que même comme ça, vous pouvez accompagner votre ado si vous voulez, mais en tout cas, ils sont 100% sûrs qu'ils ne vont pas picoler.
Ouais, c'est pas mal.
Ouais, après, c'est un peu injuste de ne pas pouvoir emmener son gamin voir un artiste qu'on adore sous prétexte qu'il a 16 ans. Ouais. Moi, si on m'avait empêché de voir des concerts à 14 ans, j'aurais été très, très malheureuse.
Ouais.
Mais bon, ils organisent des choses.
Alors, le samedi, on avait parlé il y a quelques semaines de l'endroit de Bread and Circus, du quiz. Et donc là, ben, après The Office, c'est le tour de la série Friends. Donc, si vous êtes plutôt calé Friends... donc c'est samedi à 15h, équipe de 5, premier arrivé, premier servi pour choisir la table. J'ai pensé à toi Valentin pour la deuxième, je te regarde avec grande pression. Est-ce que tu connais le Mikkeller Running Club?
Non, mais il y a un mot que j'aime bien dedans.
Est-ce que ce serait running? Donc Mikkeller, c'est la grande marque de bière qui se sont un peu développées partout. Et donc, ils ont des clubs sportifs, ils ont aussi le vélo club et le running club. Donc là, ils se donnent rendez-vous à midi. Vous pouvez poser vos affaires dans le bar, aller courir 5 ou 8 km et demi en groupe. Vous n'êtes pas besoin d'être membre du Running Club pour participer, c'est gratuit. Et ils gardent vos affaires dans le bar. Comme ça, quand vous revenez, hop, vous pouvez prendre une petite bière, avoir un endroit sympa.
C'est pour Valentin, ça. Il a les yeux qui pétillent.
Je me demande aussi, est-ce que tu peux venir si tu as moins de 18 ans dans le club, tu vois.
Ah,
pas le club pour courir, oui, peut-être. Mais on va s'assurer.
Mais pas pour la bière.
Ouais, voilà. Même un panaché, c'est interdit.
Oh, ils sont chiants.
De toute façon, c'est pas mon problème.
Et mon dernier conseil, c'est dimanche. Donc j'ai je me suis pas mal engagée avec une association qui s'appelle Rue de Marca, et ils ouvrent leur saison ce dimanche. Donc en fait ils se retrouvent à un point dans Oslo et ils récupèrent les déchets. Donc en fait il y a pas grand chose à faire si ce n'est s'inscrire, c'est gratuit, et en fait vous aurez un sac poubelle, des gants, des fois vous aurez même une pince pour attraper des déchets. Et après en fait on récolte tout, on pèse combien on a récupéré. Ça va sur les réseaux sociaux, évidemment. Et puis après, ils partagent un sandwich ou voilà, une boisson.
Ok, cool. Et allez faire ça où ?
Et là, c'est au parc St. Hanshaugen.
Ah, magnifique parc.
Voilà. Donc, quelle heure ? C'est à quelle heure ? Oh, je ne sais plus. Midi, sûrement ? Oh. Comme, c'est entre... voilà, vous pouvez, le samedi, vous pouvez aller courir. Et le dimanche, vous pouvez ramasser... Est-ce que j'ai pas d'heure ? Oui, midi, de midi à 15h. Donc voilà. Okay. Pas besoin de. Vous pouvez aller faire la fête la veille d'ailleurs.
Tu peux aller au festival
de reggae, voilà. Reggae.
Puis après, tu vas faire un petit ramassage pour décuver le lendemain.
Après, je trouve étonnant qu'on fasse ça dans un parc, moi. Et pas en pleine nature.
Ils vont le faire après.
Un parc municipal, bon, ils ont des employés municipaux normalement.
Mais il y a plein. Là, quand je l'ai fait, on était. Un parc patrimoine de Grünoloka, près de Vulcan, là, je ne sais pas comment il s'appelle ce parc.
C'est pas le jardin botanique ?
Non.
Non,
c'est le. Je ne sais plus comment il s'appelle.
Bon, bref, là-bas. Il y a quand même pas mal de. Moi, je suis allée le long de la rivière, là, à Kösterlein, plein de trucs à ramasser. Hein. Donc, je pense qu'ils font ça au centre-ville pour essayer de ramener du monde. Et après, ils vont autour des plages, ils vont dans la forêt. Enfin, bref, voilà. Il y aura d'autres rendez-vous, c'est une fois par mois.
En tout cas, une bonne initiative qu'on soutient.
Voilà. Est-ce qu'on fait une petite transition musicale ?
Bah oui, et puis on va vous mettre en chauffe.
Vu que je n'ai pas donné mon thème, la musique va l'annoncer.
Les amis, je dois m'en aller. Valentin, tu vas nous parler de l'Amérique.
Et oui, et plus particulièrement de l'émigration des Norvégiens aux États-Unis.
Et là, pourquoi ce sujet te vient à l'esprit ?
Eh bien, d'abord, ça a commencé par une simple visite au musée. Alors, je sais, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de vous rendre au musée folklorique de Bygdøy ?
Oui.
Non.
D'accord. Alors, situé sur... merci Emma du soutien. du coup, situé sur la presqu'île de Bygdøy, vous aurez du coup là-bas la possibilité de visiter des maisons, enfin des logements et puis des habitations de la Norvège à travers le temps. Donc, on peut trouver des maisons de vikings et puis on peut avancer comme ça jusqu'à des maisons jusqu'au la moitié du 19e du 20e siècle, je dirais. Mais en tout cas, du coup, quand vous arrivez dans la partie 20e siècle, 19e siècle, du coup, j'ai une impression un peu d'être dans une reconstitution de western. En tout cas, il y a des maisons qui m'évoquaient un peu les images que j'avais des États-Unis. Du coup, c'était ma première impression. Et ensuite, il y a aussi un sentiment qui est assez curieux que je ressens ici depuis que je suis arrivé, c'est d'être un peu plus proche en fait, de la culture américaine. Alors même si je l'expérimentais seulement par Friends. mais en tout cas, j'ai l'impression de la manière d'être des gens, donc je sais pas, l'optimisme, le hug aussi. Et puis, je sais pas, un petit peu matérialiste. La nourriture aussi, ouais. J'ai l'impression d'être encore plus proche en fait, des États-Unis.
Et donc, du coup, tu vas nous parler de l'histoire de l'immigration des Norvégiens.
Oui. Alors figurez-vous qu'en fait au 19e siècle, si on compare en termes de pourcentage de population qui a émigré vers les États-Unis, en fait la Norvège est le deuxième pays au monde qui a envoyé le plus de ses habitants vers les États-Unis. Alors pour donner une petite idée, en 1910, on recense entre 800 000 et 1 million de Norvégiens qui vivent aux États-Unis, et à l'époque en Norvège on a 2,4 millions d'habitants sur le territoire. Donc l'autre jour, je parlais de la peste de noir qui a décimé la moitié de la population. Là, on n'est pas loin d'un score similaire, en fait.
Oh, c'est énorme. Mais bon, ok, la peste était au 15e siècle, mais là, on est au 19e siècle. C'est quand même pas la maladie qui a poussé tous ces gens à partir.
Et c'est juste. Donc on a des petits débats historiques entre historiens qui apparaissent pour comprendre les raisons de cette migration. En tout cas, on a les principaux qui ressortent sont les suivants. Alors d'abord, on a un motif religieux, en fait. On date le début de cette migration en 1825, plus précisément le 4 juillet 1825, parce qu'on a un bateau qui part de Stavanger, donc ville située à l'ouest, au sud-ouest de la Norvège. Donc ce bateau s'appelle The Restoration. Du coup, il quitte Stavanger pour se rendre à New York. Et du coup, à son bord, on compte à peu près 52 personnes qui sont principalement des Quakers. Savez-vous ce que c'était?
Non, Quakers. C'est quoi déjà les Quakers?
Ben non, on connaît les céréales du même nom.
C'était ma blague. Alors du coup, ça a été un groupe religieux, donc qu'on appelle aussi en bon français la Société des Amis. Donc, sans rentrer dans un cours d'éducation religieuse, bon, en gros, ils ont une pratique religieuse qui est différente de celle des protestants, qui ont leur monopole en Norvège. Et du coup, c'est assez illégal, en fait, d'être Quakers en Norvège. Donc, du coup, ils prennent la décision d'émigrer vers les États-Unis. Alors, du coup, pendant 10 ans, ils vont un peu galérer pour trouver leur lieu. Donc ils arrivent à New York, mais ensuite voilà, ils naviguent un peu le long de la rivière Hudson, je crois. Et puis ils arrivent finalement en état de l'Illinois pour s'installer comme fermiers.
Mais est-ce que c'est le seul motif qui a poussé nos amis norvégiens à traverser l'Atlantique?
Alors non, c'est le premier. Mais ensuite, du coup, ces personnes continuent à parler, à communiquer, enfin plutôt à écrire, oui, avec leurs proches qui sont restés en Norvège. Du coup, ça fait des envieux. Progressivement, on a du coup leurs proches qui vont les rejoindre. Toujours est-il que du coup, dans les années 1860, ça va vraiment s'accélérer, en fait, cette tendance de l'immigration vers les États-Unis. Alors, il y a plusieurs raisons qui sont avancées. D'abord, en Norvège, bah, du coup, on commence à être un peu à l'étroit. Il y a une croissance de la population qui se fait. On commence à avoir une concurrence entre la terre comme exploitation agricole et la terre comme lieu d'habitation. On est en Norvège, c'est compliqué d'avoir une ferme et puis de pouvoir avoir son exploitation rurale. Tandis qu'en fait, aux États-Unis, on est en pleine expansion, pleine conquête de l'Ouest. On a des promesses très alléchantes d'avoir son propre terrain. Donc j'avais noté notamment qu'on avait un gouvernement fédéral du coup proposé en échange d'un prix très faible et d'une promesse d'exploitation de 5 ans. Donc proposer en fait à des personnes de devenir propriétaires, d'acquérir 160 hectares, à condition que c'était à l'ouest de la rivière Mississippi. Bon, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais il est assez symbolique celui-ci. Et ensuite, on a aussi une crise économique en Norvège qui sévit donc vers les années 60-70. Et là, en fait, même pour un ouvrier, c'est même plus intéressant d'être ouvrier aux États-Unis. Puis après, bon, on rappelle qu'en Norvège, la Norvège est encore sous domination suédoise. On ne parle pas vraiment de démocratie, alors qu'aux États-Unis, c'est bien installé. En tout cas, on a une liberté religieuse et politique qui est quand même plus marquée qu'en Norvège. Et ça peut être aussi l'un des motifs qui font que les personnes sont convaincues de se décident de partir vers le nouveau continent.
Et d'où venaient ils venaient d'où ces immigrés norvégiens?
Alors, la plupart venaient des fjords au début. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, on manquait d'espace dans les campagnes, on a beaucoup de personnes de l'intérieur des terres norvégiennes qui ont choisi de partir. On a aussi des personnes des régions du sud, parce qu'en raison de la crise économique, qui partent aussi vers les États-Unis. À tel point qu'on voit parfois, pour ces provinces du coup du centre et du sud, on voit à peu près 40% de la population qui peut partir parfois vers les États-Unis.
D'accord. Et ça va durer longtemps comme ça, cette immigration?
Non. Du coup, toutes les bonnes choses ont une fin. Enfin, ça dépend du point de vue duquel on se pose. Mais voilà, les États-Unis vont sonner la fin de la partie, donc avec une loi d'immigration qui s'appelle l'Immigration Act en 1924, qui va du coup établir un quota d'immigrés par pays. Donc la Norvège, du coup, comptait à peu près un peu plus de 2 millions d'habitants. Elle voit ses quantités significativement restreintes. Donc on estime après qu'il y avait quelques milliers, en fait, après 1924, cette date. Du coup, on avait quelques milliers d'émigrés qui partaient vers les États-Unis. Alors qu'avant, au début du XXe siècle, on aurait très bien pu avoir 100 000 personnes par an qui partaient.
D'accord.
Ce qui est énorme sur 2 millions d'habitants.
Bah oui, et donc tu sais, en 2023, combien d'émigrés norvégiens aux États-Unis, enfin, qui sont restés?
Alors, un peu dur à savoir, mais ce qu'on m'a dit, en tout cas, pendant une discussion, c'est que s'il y avait un droit du sang qui s'appliquait, en fait, on aurait pu estimer qu'il y avait plus de Norvégiens aux États-Unis qu'en Norvège.
Et bien, en même temps, ils sont partis nombreux aussi, donc s'ils ont plusieurs enfants, pouf.
Et ouais, du coup, aussi, hein, quelque chose que j'ai oublié de préciser, c'est qu'en fait, ces personnes, principalement les Norvégiens, vont aller, apparemment, comme d'autres pays scandinaves, vont aller vers le nord des États-Unis, donc vers les États du nord et du nord-ouest.
Pour retrouver un petit peu leur froid, il faudrait pas qu'ils soient dépaysés.
Sûrement.
Bon bah, merci Valentin, c'était super intéressant.
Je vous en prie.
Un rendez-vous histoire. On va passer à toute autre chose, plus moderne. On va parler d'intelligence artificielle avec toi et
ouais,
moi.
On va parler d'intelligence artificielle et du futur. Alors je sais pas, est-ce que vous avez forcément vu que Elon Musk était un peu en PLS là depuis 24 heures.
Eh ben figure-toi, j'ai allumé la télé ce midi et j'ai vu la pause. Il faut faire une pause.
Voilà, donc on est, je crois que c'est clair, à l'aube de ce qu'on appelle la quatrième révolution industrielle. Ça intéressera Valentin s'il veut imaginer notre futur. Donc en quelques heures, qu'est-ce qui s'est passé hier ? Donc en quelques heures, plus de 1000 chercheurs et entrepreneurs de la tech ont signé un texte appelant un moratoire de 6 mois sur les recherches en intelligence artificielle. Donc, à l'heure où on a la sensation de complètement perdre le contrôle des IA, il faut prendre le temps, maintenant, pour y fixer des limites. Alors, qui dit tout ça ? Ça a commencé, donc c'est un gros appel en ligne qui a été mis sur le site futureoflife.org, une fondation américaine. Et donc, en quelques heures, il y a un bon millier d'ingénieurs et d'entrepreneurs parmi les plus connus de la tech qui se sont réveillés, ont signé, ont partagé l'info, enfin, tirent la sonnette d'alarme. Donc, on trouve en tête Elon Musk, donc le patron de Tesla, SpaceX, Twitter, mais qui a aussi été le premier à créer une entreprise OpenAI, qu'il a ensuite cédé à Microsoft. On retrouve aussi Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple, ou encore l'essayiste Yuval Noah Harari, qui élève leur voix donc, là-dessus. Qu'est-ce qu'ils demandent ? Leur texte est clair. Ils demandent un moratoire de 6 mois sur toute nouvelle recherche concernant les instruments d'intelligence artificielle et notamment celles qui sont
généralisées ?
Non, génératives.
Ah.
Est-ce que vous savez ce que c'est l'intelligence artificielle ?
C'est
générative.
Ce qui crée des choses.
Alors l'intelligence générative, c'est donc l'intelligence qu'on programme, à qui on donne des informations pour recréer derrière. Mmh. Donc, par exemple, on va la nourrir d'images de peinture et on va pouvoir créer des images sur le style de Picasso, sur le style de machin.
Mais de quoi ils ont peur, tous ces ingénieurs et autres
ben parce qu'en fait, là, ils sont en train de perdre complètement de le contrôle de ce qu'ils ont créé. C'est-à-dire que les créateurs, les programmeurs, tout le monde, là, ils ne savent pas où ça va et à quel point on va mettre en danger l'humanité, en fait. Qu'est-ce que ces machines vont pouvoir faire. Ils disent que les systèmes AI sont devenus clairement aussi intelligents et qu'on ne sait pas s'ils ne peuvent pas devenir encore plus intelligents. On va remplacer évidemment beaucoup de travail humain. Mais surtout, les questions qu'on doit se poser, c'est devons-nous laisser les machines se nourrir de fake news, de propagande, de faits faux ? Devons-nous automatiser tous les boulots, même ceux qui rendent les humains heureux en les remplaçant par des machines ? Devons-nous vraiment développer des esprits non humains qui finiront par nous remplacer ? Devons-nous risquer la perte de contrôle de notre civilisation ? Le mot est fort quand même. Hein. Donc voilà, on s'inquiète depuis le début. Alors pourquoi maintenant ?
Bonne question. En tout cas, les professeurs à l'université, en période d'examen là, qui arrive, s'inquiètent très fortement de l'utilisation de ChatGPT. Pour les dissertations, et ils ont tous reçu une formation pour réussir à détecter s'il y a eu l'utilisation de cette plateforme-là pour rédiger les essais. Alors, on ne sait pas en quoi consiste la formation et
oui,
comment ils vont faire.
Comment savoir
bah, on ne sait pas. Ils nous ont dit qu'ils allaient rentrer les copies dans ChatGPT pour voir. Enfin, on sait qu'il y a des sites anti-plagiat qui sont bien développés pour vérifier s'il y a du plagiat, mais dans ce cas-là, ce n'est pas du plagiat. Donc, ça reste assez flou. On ne sait pas si c'est pour nous faire peur ou si c'est vraiment efficace.
Ouais. Moi, je pense quand même qu'on peut avoir un peu peur quand on voit ce qu'on est capable de faire. Ouais. J'aimerais vous faire écouter quelque chose, là. Donc, pour vous, remettre dans le contexte. Là, je vais parler de la musique, mon domaine de prédilection. Donc, il y a un certain Roberto Nixon, qui est entrepreneur spécialisé dans la tech, qui a réussi à programmer une AI pour qu'elle sonne exactement comme Kanye West. Donc, je vais vous faire écouter comment il rappe, voilà, et quel résultat après. On écoute, excusez-moi.
Et tu pourras nous mettre aussi un vrai extrait de Kanye West.
Ah non, enfin, de toute façon, on ne voit pas la différence.
Non.
Oh. Alors, je vous mets tout de suite donc Roberto Nixon qui fait l'expérience.
Me, I got a fantasy that's beautiful, that's dark and twisted.
Donc ça, c'est lui qui rappe.
The whole religion, all because of my ignorance.
On n'est clairement pas sur la voie de Kanye West, on est d'accord.
Hein.
Évidemment, c'est l'intelligence artificielle qui a écrit les paroles dans le style de Kanye West.
Ouais. All right, let me cut it there. So let's hear those vocals I just recorded now with Kanye over them.
I got a fantasy that's beautiful, that's dark and twisted. But I attacked the whole religion all because of my ignorance. What was I thinking? That was some bitch shit. I lost Adidas, but I'm still Yeezy. Back in the kitchen, man, I'm a genius. Boys in the hood, just like I'm easy. Kanye, Weezy, Southside of Chicago, life ain't easy.
Ça doit faire peur aux artistes. Hein.
Je pense que ça doit déjà faire... je pense qu'il y a déjà des plaintes qui ont dû remonter parce que je traîne beaucoup sur TikTok. Du coup, il y a pas mal de personnes qui font des edits, donc des montages vidéo d'acteurs, chanteurs, artistes en général. Et il y en a de plus en plus qui utilisent l'intelligence artificielle pour leur faire dire des choses
qu'ils n'ont pas dit.
Qu'ils n'ont pas dit, mettre ça en intro d'edit. Mais parfois, c'est des trucs... c'est des phrases un peu limites. C'est déjà pas mal répandu sur TikTok.
Ça me fait penser aussi à deux choses. Un, pour rebondir avec toi Alice, le deepfake, quand ils arrivent vraiment à... Ah, je sais pas comment expliquer le deepfake. C'est que...
Le deepfake, c'est quand on prend le visage d'un mort et qu'on le fait revivre aujourd'hui en lui faisant dire des choses de 2023.
Ouais, mais aussi, il y a pas mal d'arnaques sur des gens qui... comment dire ? T'as l'impression que c'est la même personne qui parle, mais c'est pas vraiment cette personne qui parle. Tu peux me t'expliquer.
Ouais, t'arrives à projeter le corps d'une personne sur le corps d'une autre personne et du coup ça crée quelque chose d'artificiel.
Ouais.
Alors justement là aujourd'hui pour parler de deepfake etc, il suffit d'aller faire un tour sur Reddit en fait pour voir un peu ce qui se dit là sur l'intelligence artificielle Midjourney et c'est effrayant puisque maintenant on peut nourrir la bête en fait de fake news. Donc par exemple on va trouver des sujets sur la fameuse peste bleue qui s'est abattue dans la Russie dans les années 70. On va trouver l'invasion de la baleine géante qui est arrivée à Tokyo en 1953, des poilus ES pendant la guerre des tranchées. Enfin bref, on est sur la possibilité de créer à peu près tout et n'importe quoi. Ouais. C'est la porte ouverte évidemment à la propagande, c'est la porte ouverte à tout ça.
C'est même pire que la propagande parce que tu veux réécrire quelque chose qui a déjà existé.
Ouais, c'est peut-être de la propagande en quelque sorte. Hein. Mais après, ce qui est assez intéressant, en fait, je trouve, là, dans ce qui se passe, c'est que tu parlais de 4e révolution industrielle.
Mm-hmm.
Et auparavant, les révolutions industrielles, pour moi, ça touchait qu'une certaine classe de la population qui était plutôt populaire, en fait, et qui voyait, du coup, ces méthodes de travail, et en tout cas, leur position sociale assez remise en cause. Et en fait, là, l'IA, bon, alors... On imagine bien qu'elle peut faire des choses d'autres humains, des choses répétitives, et pourquoi pas même faire... en fait, maintenant, elle peut même créer. Et du coup, elle va toucher à la fois une des populations plutôt populaires, je dirais, qui ont l'habitude d'être touchées par une révolution industrielle, et à la fois par les artistes. Et même, moi j'ai vu passer des images de Donald Trump qui était arrêté, mais ça, c'était monté par une IA.
Oui, là, ces derniers jours, vous avez dû voir aussi le pape en doudoune badass, façon Jack Mus.
Mais du coup, en fait, j'ai l'impression que là, finalement, tout le monde se sent concerné en fait, par ce sujet-là.
Et voilà, et c'est là où je pense qu'aujourd'hui, on est passé d'un sujet d'expert à un domaine du grand public. Maintenant, n'importe qui... peut aller raconter et discuter avec ChatGPT qui a sorti juste sa version 4 là dernièrement, donc qui est vraiment avec qui vous discutez. Enfin, c'est génial et complètement flippant à la fois. J'ai failli demander à ChatGPT de réécrire cette chronique pour vraiment pousser l'expérience. Je ne l'ai pas fait, mais en tout cas, ouais, voilà, on est quand même à l'aube de beaucoup de questionnements.
Puis même au niveau de la tech, en fait, c'est comment dire. Enfin, bref, il y a un terme pour dire qu'il se mange tout seul, mais bref, on a en fait, il y a même les IA maintenant peuvent même pour certaines rédiger certaines lignes de code, en fait.
Ouais.
Donc en fait, on a des développeurs, qui ont bossé sur une IA
qui va détruire leur job,
en train de détruire leur job, en fait. Alors c'est peut-être pas le job de ce développeur-là, mais en tout cas le job d'autres développeurs qui eux-mêmes, en fait, ont construit des applications qui automatisaient le travail d'autres personnes, en fait.
Moi, je connais déjà des développeurs qui utilisent ChatGPT pour des lignes de code qui peuvent leur prendre des heures en disant bah voilà, j'ai besoin d'une ligne de code pour tel programme qui dit ça, et voilà, et ils gagnent un temps précieux. Là, on parle dans le domaine du graphisme, par exemple, de coder de la 3D ou des choses comme ça. Mm. Donc voilà, ça s'applique déjà aujourd'hui. Moi, j'ai été remplacée par la AI aussi. Hein, donc,
Alors,
ce n'est que le début.
Le deuxième truc à laquelle ça m'a fait penser tout de suite, je suis une grande fan de la série Black Mirror.
Ah ouais.
Et c'était dans la saison 4, il y avait cet épisode qui s'appelait Metalhead. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Où c'est les protagonistes se font harceler ou voilà, oui, ils se font harceler par un espèce de chien robot, on va dire, mais qui tue et qui en fait qui a une mission, c'est de tuer tout ce qui bouge, quoi, concrètement, parce qu'en fait il traque le GPS et je veux dire c'est un robot, donc ça n'a pas d'intelligence particulière si ce n'est d'accomplir la mission. Et quand je vois les avancées aussi robotiques combiné avec les avancées de l'intelligence artificielle, je me dis, mais on va, si se disent, voilà, on va buter tous les homos, on va buter tout.
Bah, l'armée s'est déjà emparée de l'IA. Hein,
moi, ça me fait extrêmement peur.
Mais bien sûr.
Je rebondis sur l'histoire du chien. Enfin, c'est drôle sans être drôle, mais dans l'épisode 1 de Hunger Games. À la fin, ils n'arrivent pas à tuer Pita et Katniss, du coup, les deux protagonistes. Il reste 4 tribus au total, et en fait, ils n'arrivent pas à les trouver dans l'arène. Et en fait, ils ont créé des chiens avec leur intelligence artificielle, ils les lâchent sur les tribus. Et en fait, le but des chiens, c'est de les tuer.
Ouais.
Et du coup, c'est une série qui est. Enfin, c'est une série de bouquins qui est dystopique, mais en fait, on se rend compte qu'ils sont arrivés à une. À une période où ils sont capables de créer des animaux et tout un tas de choses qui sont prêtes à
faire
à
les
tuer
mouvements.
Tuer les humains.
Mais après, ouais, il y a eu beaucoup de fantasmes sur l'IA. En fait, ça marchait par cycle. Donc, même après la Seconde Guerre mondiale, en fait, quand on avait les machines qui commençaient à calculer les trajectoires des V2, on commençait déjà à anticiper ce genre de phénomène. Enfin, j'aime tellement de films, en fait, de littérature qui sont sortis, mais ça marchait par cycle. Et du coup, là, apparemment, on se retrouve. Et il y a beaucoup d'attentes qui se faisaient vis-à-vis de l'IA lors de ces cycles-là. Mais après, ça retombait, en fait. Et là, ce qui est assez inquiétant, c'est qu'en fait, bon, bah, on voit l'excitation qui remonte. Mais en fait, c'est en train d'être alimenté par la réalité.
Oui, et puis au-delà de ça, je pense qu'il y a des... au-delà du danger même de l'IA, on est aussi, je pense, sur une guerre un peu technologique entre l'Amérique et l'Europe et la Chine. Mmh. Et la Russie, là-dessus, la Chine qui est quand même un domaine genre, super avancé sur l'IA.
Mais le pire dans tout ça, c'est que je me dis, si il faut attendre que Elon Musk s'offusque...
Non, mais en fait,
c'est qu'on est déjà trop loin, probablement que eux ils en savent beaucoup plus que nous.
Elon Musk il tient à son petit siège, peut-être que le marché, il a peur que le marché lui échappe. Moi je le vois comme ça.
Après, mais rien ne lui échappe à Elon Musk, donc pourquoi il...
Les Chinois en face quand même, des Chinois qui développent des technologies. Comment on va arriver là en termes avec la guerre en Ukraine, avec tout ça? Arriver à mettre les Chinois et l'Occident d'accord, ça va être... je pense que c'est ça qui se passe, en fait.
Bon, je crois qu'on n'arrivera pas à la fin de ce débat.
Non, par contre, moi, j'aimerais juste aussi, parce qu'il n'y a pas que des trucs négatifs sur l'intelligence artificielle. Il y a aussi des trucs, des avancées incroyables, notamment en médecine. où vraiment on fait des miracles. On se souvient tous de Stephen Hawking avec, avec la maladie de Charcot, qui était capable de communiquer. Hein. C'est un des premiers créateurs de l'intelligence artificielle. Donc, pour terminer cette chronique, j'aimerais qu'on écoute un Français qui s'appelle Pawn, qui est atteint de la musique, atteint de la maladie de Charcot.
C'est maladie
aussi. Et donc, qui a sorti cet album en 2021, entièrement composé avec ses yeux, puisqu'il est aujourd'hui au stade où il ne peut plus communiquer. Donc, c'est très, très beau et on a envie de l'encourager.
Ça sera notre pause.
C'est Pawn. Le morceau s'appelle Over et ça vient d'un disque qui s'appelle Listen and Donate. Et n'hésitez pas à l'acheter pour soutenir la maladie de Charcot. Enfin, en tout cas, la recherche sur la maladie de Charcot, plutôt. Ouais.
Eh bien, de retour sur notre émission Brisons la glace. Je vous rappelle qu'on est sur SoundCloud. Si vous voulez nous écouter, nous réécouter, partager l'émission, ça nous fait grand plaisir. On est ensemble, on a parlé d'intelligence artificielle et maintenant on va complètement changer de sujet. On va venir avec toi, Alice, on va parler de chirurgie esthétique.
Oui, en Norvège. Alors, est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux de temps en temps, notamment Instagram, TikTok, Snapchat? Est-ce que vous utilisez les filtres?
Jamais.
De beauté.
Moi, ça m'est déjà arrivé, mais plutôt sur des trucs genre du turfu, genre le maquillage 3D, des trucs funky.
Ok. Mm. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de regarder des émissions de télé-réalité?
Plus maintenant, mais beaucoup avant.
Mm. Ouais, j'ai envie de dire pareil.
Ouais, un petit peu.
Un peu, d'accord.
Bonne vieille île de la tentation.
Juste pour regarder.
Ok. Ouais. Alors, on apprend dans le dernier ouvrage de Valérie Ré-Robert, qui est essayiste, l'ouvrage c'est « Téléréalité, la fabrique du sexisme », que depuis 2019, le nombre de femmes entre 18 et 34 ans ayant fait de la chirurgie esthétique dépassait celui des 50-60 ans, du coup selon l'IMCAS. Et du coup, on pourrait se dire que c'est un phénomène qui touche pas forcément la Norvège, parce que les femmes arborent un look assez naturel. Bon, elles se maquillent, mais pas forcément énormément. Ça les touche quand même pas mal. Donc, selon une étude de l'Institut norvégien de la santé publique, le recours à la chirurgie esthétique est en hausse en Norvège, avec une augmentation de 11% entre 2018 et 2019. Et ça touche particulièrement les femmes. Donc on le remarque pas forcément, mais si on fait un peu attention dans les transports en public, dans la rue, on peut remarquer qu'il y a des liftings, qu'il y a du lip filler du coup dans la bouche.
J'allais dire des doubles bouches, ça on en voit même quelques-uns.
Les injections, on les devine.
On sait jamais vraiment quel âge elles ont en fait. Elles font à la fois très jeunes, mais on saurait pas trop situer, du coup il faut quand même observer. Et du coup, vous me direz quel est le rapport avec la télé-réalité et les réseaux sociaux? Donc, il faut savoir qu'en Norvège, la Norvège, comme plein d'autres pays, possède des programmes de télé-réalité ainsi que des influenceurs sur les réseaux sociaux.
Évidemment.
Et du coup, comme l'explique Valérie Ré-Robert, les mécanismes de représentation des femmes en télé-réalité et sur les réseaux sociaux, c'est toujours les mêmes. C'est des mécanismes qui font que le corps de la femme, il est scruté de A à Z tout le temps, que ce soit à travers les caméras, que ce soit les gens qui consultent les réseaux sociaux en allant sur le contenu de la personne. Et en fait, elles sont souvent montrées dénudées, elles sont souvent montrées de très près. Et en fait, cela résulte sur une pression qui est assez importante et qui est mise sur les femmes. Et du coup, elles ont une pression à avoir un visage parfait, une peau parfaite, un corps parfait, parce qu'en fait, c'est vendeur. Leur outil de travail, c'est leur corps. Et du coup, les influenceuses, elles subissent souvent une pression et une obligation à être parfaite physiquement. Et dans ce cas-là, deux choses arrivent. La première, c'est que elles retouchent leurs photos et elles utilisent des filtres, ce qui peut se faire sur les réseaux sociaux, bien sûr. Et le deuxième cas, c'est qu'elles risquent d'avoir recours à la chirurgie esthétique, si ce n'est qu'elles elles utilisent régulièrement les deux techniques. Et du coup, cela fait que y en a qui s'assument et qui disent
qui
clairement.
Qui finissent à Dubaï avec Nabila.
Ouais, non, mais qui disent clairement qu'en fait qu'elles ont eu recours à la chirurgie esthétique. Puis il y a celles qui n'assument pas forcément. Et qui explique que si aujourd'hui elles ont tel corps, elles ont une peau parfaite, elles ont des cheveux parfaits, c'est grâce aux produits qu'elles vendent sur leurs réseaux sociaux. Et que c'est en achetant ces produits que les personnes lambda vont avoir une esthétique parfaite. Et en fait, cela pose un énorme problème, puisque le public de la télé-réalité est souvent très jeune. C'est un public qui est du coup influençable. Et en Norvège, c'est comme en France, quoi, du coup. Selon une étude de 2019, il y a 38% des jeunes filles qui utilisent régulièrement les réseaux sociaux qui se disent prêtes à avoir recours à la chirurgie esthétique pour changer un élément qu'elles n'aiment pas dans leur visage, leur corps, tout ça, contre seulement 16% des garçons. Et du coup, bah, les codes de beauté issus des réseaux sociaux et des influenceurs, et eux-mêmes sont victimes de ces codes de beauté, bah, ça crée ce qu'on appelle un dysmorphisme. Un dysmorphisme, du coup, bah, c'est quand on se regarde, par exemple, dans le miroir, on n'a pas vraiment une vision réelle de son visage ou de son corps. Et du coup, bah, les jeunes, ils ont de plus en plus recours à la chirurgie esthétique pour avoir le visage qu'ils ont en utilisant des filtres. Et en fait, c'est un cercle vicieux qui s'alimente. Et du coup, en juin 2021, il y a le gouvernement norvégien et plus particulièrement le ministère des Affaires familiales et des enfants qui adopte un décret obligeant les internautes à indiquer sur tout contenu publicitaire ou sponsorisé si leur photo elle est retouchée sous peine d'écoper d'une amende. Sauf que bah, c'est un dispositif qui est très compliqué à mettre en place. Et on ne sait pas si c'est très compliqué à surveiller. Et en fait, ça reste qu'une toute petite partie des photos qui sont postées sur les réseaux sociaux finalement. Et du coup, bah, bien que le décret il soit important et que ce soit un pas en avant, bah, le problème il reste structurel. Et bah, il découle déjà d'une pression sociale qui repose sur les femmes à toujours... qui repose sur une moindre mesure quand même sur les hommes. Et du coup, bah, cette pression, c'est une pression à toujours être mince, à toujours être belle, à toujours être jeune, à toujours être apprêtée. Et c'est un problème structurel aussi qui repose sur autre chose et qui repose sur des normes de beauté, notamment des normes de beauté caucasienne et européenne, parce que c'est la norme de beauté qui est la plus répandue aujourd'hui dans le monde. Et du coup, en fait, on a des demandes de chirurgie esthétique qui se ressemblent énormément, par exemple le petit nez en trompette, la bouche un peu plus pulpeuse, les yeux, des grands yeux. Ça, c'est par exemple beaucoup pratiqué en Asie pour ouvrir plus le regard. Et en fait, ces demandes, bah, elles sont alimentées par toutes les femmes qu'on voit à la télé, toutes les femmes qu'on voit sur les réseaux sociaux et qui sont aussi victimes de ces standards de beauté-là. Et du coup, bah, pour lutter contre tout ça, c'est certes bien de mettre en place des décrets, mais ce qu'il faudrait en réalité, bah, c'est changer ces normes-là, parce qu'aujourd'hui, toute cette pression, elle repose, c'est encore le reflet d'une société où une inégalité de genre est très présente et où il y a toujours une hégémonie des standards de beauté européens qui font que bah, c'est compliqué d'être une femme, c'est compliqué d'être une femme sur les réseaux sociaux et c'est compliqué bah, de s'accepter comme on est aujourd'hui dans un monde où la télé-réalité et les réseaux sociaux ils prennent de plus en plus de place.
Mais moi j'ai vu sur TikTok là, pas mal de vidéos qui en dénoncent un justement, genre le dernier filtre ouais. Ultra qui vous transforme en meuf canon, que vous ayez 15 ou 50 balles.
J'ai pas mal étudié ce filtre.
Moi je l'ai pas essayé, tu vois.
Du coup, alors je l'ai essayé mais il est horrible sur moi. Alors déjà c'est un filtre qui fonctionne très bien sur les personnes qui ont un visage doux, pas les traits marqués. Les personnes en général qui ont les traits un peu plus forts du visage, ça va faire un filtre qui est très masculinisant sur le visage.
Okay.
Et deuxièmement, en fait, c'est un filtre qui fonctionne très bien parce que avant, les filtres qui étaient proposés, c'était des filtres qui, dès qu'on passait la main devant le visage, on voyait qu'il y avait un filtre, le filtre disparaissait. Et là, en fait, le filtre est complètement collé sur le visage, on peut passer la main devant, tout ça, il ne bouge pas. Et en fait, du coup, la technologie qu'il y a derrière est différente. Et c'est pour ça qu'il est aussi populaire, mais effectivement, il a été pas mal dénoncé parce que bah, c'est un reflet assez important de ce qui peut être fait aujourd'hui en chirurgie esthétique.
Attends que l'intelligence artificielle fasse les filtres.
Voilà.
Et à ce propos, d'ailleurs, moi, ce qui m'a marqué aussi là, à Oslo, c'est que les pubs, sur les pubs, on voit beaucoup de logos retouchés.
Ouais,
on regarde en haut à gauche, on voit. J'ai vu qu'un personnage en noir qui entourait, puis j'ai cherché la traduction, ça veut dire photo retouché.
Ouais, ils sont obligés de. Du coup, bah, le gouvernement a produit en même temps une petite pastille qui apparaît du coup sur les photos retouchées.
Ouais, de toute façon, n'importe quel magazine doit avoir le logo à toutes les.
Oui, mais tout est
à toutes les illustrations, quoi.
Mais, en gros. Mais en parlant d'émissions de télé-réalité, il y en a une qui est assez marquante en Norvège, que j'ai pas entendue ailleurs. C'est du coup bon, le principe c'est bon, on fait croire à des femmes qu'elles vont rencontrer l'homme de leur vie quelque part sur une île. Du coup les animateurs vont inviter les femmes sur l'île et du coup elles s'attendent à voir les mecs arriver, Puis en fait, les mecs qui arrivent au loin, bah, c'est les gosses qui ont, je sais pas, dans, sont dans les 18-20 ans. Et du coup, voilà, elle se retrouve à devoir fréquenter les gosses des autres femmes.
Ah, ok.
Ouais.
Ah, ça, c'est sympa encore.
Génial.
Ouais.
C'est, on a échangé nos mamans, quoi, c'est ça?
Ouais.
Un peu.
En plus âgé, je crois.
Je suis pas sûre du concept.
Ouais, ça fait un peu peur, tout ça.
Ah, ouais, complètement. On avait une petite musique pour finir la chronique.
Ouais, vas-y.
On y va.
Eh bien, nous voilà de retour dans notre émission Brisons la glace. Sympa, Nekfeu ?
Ah, Nekfeu chouchou, oui, hein. Nekfeu chouchou.
On attend son retour.
Un ouais. Eh bien, c'est l'heure de ma chronique.
C'est culture et confiture. Moins tu en as, plus tu l'étales.
Eh bien, les amis, vous imaginez même pas la galère pour trouver un sujet culturel et original cette semaine. Alors, comme d'hab, je suis allée sur mon ami Wikipédia pour trouver de l'inspi. Bon, 30 mars, oui, bon, ben, on est toujours dans le mois de Germinal, mais bon, on avait déjà parlé la semaine dernière, donc le calendrier républicain, en pâte à physique, on s'en fout. Bon, alors j'en regarde 19e siècle, un paquet de réarrangements de territoires, le Danemark qui annexe le Schleswig, à défaut d'avoir du swag, ils ont chopé un bout allemand, voilà. Les Russes ont traîné en Afghanistan, voilà. Le roi Béhanzin du Daoné, ça te parle ça ? C'est en Martinique. Il était nommé aussi Béhin Azibo Aïdje Aosu Gobolé, qui s'est installé en Martinique.
Et ça, ça veut dire quoi, ça ?
Bah, c'est son nom de King.
Ah, c'était son nom ?
Oui.
Ouais, ouais. Okay.
Ou bien Gébin Asie. Et non, pardon, le roi Béhanzin, en plus court.
Plus simple.
Voilà, plus simple. Sinon, répétez après moi, les Grecs de Crète se prennent la tête avec les Turcs.
Les Grecs de Crète se prennent la tête avec les Turcs.
Voilà, il y avait aussi ça. Ronald Reagan s'est pris une balle. Bon, il a survécu. Et aussi, on avait l'ONU qui a commencé à aider les réfugiés kosovars. Mm-hmm. Tout ça, ça s'est passé un 30 mars. Il y a beaucoup de choses. On peut aussi dire bon anniversaire à Van Gogh et à Jean Giono et à Céline Dion.
Oh, Céline.
Toi, t'es pas prête, Céline. Finalement.
Non, j'étais pas prête, j'étais en train d'ouvrir ton autre truc. Céline, j'irai où tu iras. Elle est prête, pourtant, elle est prête.
Bon, à quel âge, Céline ?
67.
Toi, tu dis quoi ?
57.
Toi, tu dis quoi ?
60.
55.
55, la victoire pour Valentin. Elle est née en 68.
Ah bon ?
Mais vraiment, elle me semblait plus. Depuis qu'elle est avec son mari René, bon, qui est décédé, ouais, le pauvre, je la retrouve. Je la pensais.
Elle a pris un coup de vieux. Elle a eu des. Il y a des choses pas drôles qui se sont passées dans sa vie. Elle a pris un coup de vieux.
Ouais.
La maladie. Enfin,
compliqué. Enfin bon, bon anniversaire.
Des soucis. Céline a des soucis.
Bon anniversaire à Céline. Sinon, côté journée internationale, c'était la journée scolaire de la non-violence et de la paix. Alors genre, c'est super et tout. Et puis je regarde, non. En fait, c'est le 30 janvier. Parce que c'est la date anniversaire de la mort de...
Jean-Paul II.
Le 30 janvier.
Ouais, qui c'est qui est mort un 30 janvier ? Qui inspire la paix ?
Le Dalai Lama ?
Ben non, Gandhi, loin.
Bon, ouais, bon.
Je m'étais trompé en écrivant Gandhi. Gandhi, le H est à la fin et pas au début.
Il n'y a pas grand monde qui inspire la paix. Hein.
Mère Thérèse.
Bon, sinon, il y avait la journée internationale des troubles bipolaires. Bof, ok.
On lui reçoit du courage.
Et alors, Joda, en France, là, c'était le sujet, journée nationale des mobilisations des retraités.
Je croyais qu'on parlait pas politique.
Eh ben oui, ben non. Du coup, ben non, je peux parler de ça. Je me suis remonté les manches et j'ai pris mon courage à deux mains pour vous parler du sujet le plus important en ce 30 mars, puisque le 30 mars est officiellement nommé le jour du couvoir. Couvoir du verbe
couver.
Alice, tu me conjugues le verbe couver au présent ?
Je couve, tu couves, il couve.
Continue.
Ah, nous couvons.
Nous couvons, vous couvez.
Oui, il couvre.
Ah, il couvre. Ça y est, je...
Tu T'aurais dû prendre plus de temps, Alice.
Mais ça me stresse, moi, la conjugaison, je suis nulle.
Merde, attends, j'ai Céline Dion qui continue. Bon, c'est bien, c'est pas grave. Oh, alors, on va la reprendre. Je coupe Céline Dion et je lance Audacity. Excuse-moi,
c'est pas y arriver. Logiciel. Donc, je couvre, tu couvres, il couvre, nous couvons, vous couvez, il ou elle couvre. Bah. Ben non, Amélie, les poules, elles couvent pas souvent au couvent. Les poules, elles couvent au couvoir. Elles couvent au couvoir. Et oui, on peut dire merci à la chaîne de valeur ajoutée. J'ai regardé des vidéos sur YouTube des gens qui produisent des œufs et des poulets. C'est génial. Alors, les couvoirs, on peut aussi
après,
appeler ça...
Après, t'en manges plus, non ?
Ah, c'était ça, sympa. Le couvoir qu'on peut aussi appeler ben, incubateur, pour faire un petit peu plus...
Tech et
turfu. Ou tech. Ouais. C'est un peu moins poétique. Eh bien, c'est là où, la plupart du temps, on garde les œufs pondus jusqu'à l'éclosion du poussin. Ouais. Combien de temps vous pensez qu'un poussin reste dans cet incubateur ? Enfin, une fois qu'il est né ?
Dans les trucs en batterie ? 10 jours, 15 jours ?
Je sais pas, mon papier, en avait un, il m'avait expliqué.
Dans son premier jour, il naît et il se barre. C'est fini. Il part pour d'autres horizons. Et en fait, on le voit dans la vidéo, ils sont dans leurs œufs, et bien, ils tombent, et ils se retrouvent ben, là, et hop, et après on les envoie. Voilà. Donc toute la journée, ils sont dans leur caisse, et ils sont envoyés dans les autres fermes pour continuer leur vie. Voilà. Combien de poulets domestiques dans le monde ?
Oh là là, ça doit être affolant, je sais pas, des milliards.
Ouais. On est bien, c'est déjà la bonne unité.
10.
22 milliards de poulets. Combien en France ?
8.
8 milliards.
Non, 750 millions. Et combien en pourcents sont élevés de manière intensive ?
80%.
En France. Ouais, plus de 80%. 83% sont élevés de manière intensive. Donc, bon, bah, quand on dit élevé de manière intensive, hein, c'est forte densité. En général, un poulet, ça n'a pas plus qu'une feuille A4 que je tiens dans ma main. Les bâtiments sont sombres, ils n'ont pas accès à la lumière, il n'y a pas d'enrichissement, ils ne peuvent pas se percher, parce que bon, les poules aiment bien avoir différentes... C'est quoi qui...
C'est une sortie, son...
C'est moi qui fais une petite poule malheureuse.
Oui. Oh. Et voilà, bah, les poulets ont le seum, voilà. Et surtout, les poulets ont le seum parce qu'ils vivent combien de temps ?
Pas longtemps, on les bouffe avant.
6 mois ?
Un an ?
Non, pas 6 mois.
Même pas 6 mois,
non,
3 mois ?
Non.
Un poulet vit 39 jours.
Ouais.
Oh,
c'est
un
peu plus d'un.
Ils ont
mois,
même
ouais.
pas le temps de voir d'autres horizons, de faire la teuf, rien. Mmh. Un poulet, donc ça vit 39 jours. Mais la vraie espérance de vie d'un poulet, c'est quoi ?
Ah, tu veux dire comme la mémé de, si on... d'Alice ?
Ouais, dans les poulets.
Alors, les poulets de mémé, il y a combien de temps ? Parce que mémé, elle faisait pas de leur.
Les poulets de mémé, mais ils vivaient bien des années. Hein.
Bah oui,
si on tue pas un poulet, combien de temps il vit ?
Je sais pas. Une poule pondeuse, combien de temps ? Ça dure des années, les poules pondeuses.
Ça peut vivre jusqu'à 12 ans et demi.
Ouais. Ah, ouais.
Donc concrètement, en tuant un poulet à 39 jours, ben, on le tue après 1% de sa vie.
Ouais.
Voilà. Donc c'est comme si on tuait un homme à 1 an. Ça fait peur. Alors pour faire un segue sur l'autre part d'élevage intensif, on va parler des autres animaux qui sont élevés de manière intensive. Un bœuf, à votre avis, combien d'années ça vit en élevage intensif et combien d'années ça vit une vie normale ?
Ça ne vit pas une année en élevage intensif.
Ouais, on est bah,
ça dépend si on considère quand tu le vaux ou pas. S'il dépasse le statut veau ou pas, déjà. Je pense qu'il y a un premier palier.
Donc un bœuf
dans... adulte. Ouais.
Donc c'est 2 ans.
Celui qui a passé le qui est pas qui est pas qui, est, qui s'est pas fait buter
si,
en veau.
Si si. Ouais, ouais, voilà, 2 ans.
Qui a survécu un peu.
Mais son espérance de vie est de 20 ans.
Ouais.
Wow.
Voilà. Une vache laitière a un peu plus de chance. Elle vit 5 ans en moyenne. Toujours bon, après 20 ans. Et là, les porcs, ça m'a fait un peu mal aussi, en regardant ça vite fait. Le porc vit...
Je sais pas, 10 ans.
Peut vivre 12 ans, ouais. 12 ans et demi, mais on le tue à 6 mois.
Ouais.
En général.
Bon, allez, on bouffe tous des brocolis à la fin de...
Donc voilà, c'était ma chronique sympa.
Ouais. Non, mais c'est important.
Réfléchissez à deux fois si jamais vous participez. Alors, j'ai vu un comparatif. Donc, si jamais vous ne savez pas trop quoi choisir, il vous fallait des éléments pour choisir le bio, et ben c'est là où ça va faire la différence, c'est que les poulets sont mieux traités, vraiment
bien
mieux
sûr,
traités.
Bien sûr.
C'est une grosse différence entre, donc on avait dit, oui, 22 poulets au mètre carré dans l'élevage intensif. En élevage bio, ils ont plusieurs mètres chacun. Voilà, désolé pour la grosse ambiance.
Mieux vaut manger un peu de viande de temps en temps et sauvons la planète.
Ou alors se prendre un poulet pour soi et.
Ouais.
Et attendre.
Et ou alors, ouais, et voilà.
Et attendre. Bon, comme on a déjà fait la pause musicale, je voulais vous proposer de terminer l'émission en parlant des traditions de Pâques. Parce que j'ai une discussion ce matin avec un Norvégien de souche qui me dit que à Pâques leur truc préféré, bon, en dehors du ski, ça on s'en doutait, on en avait parlé la semaine dernière, mais que c'est aussi la période de l'année où ils sont à fond sur les séries criminelles.
Ah oui,
c'est le truc de Pâques,
c'est crime posque, ah oui, c'est la grosse tradition, et ça touche la Suède aussi.
Et ça, je savais pas.
D'où tous ces téléfilms Arte qui nous arrivent de Scandinavie avec à propos de crimes.
La culture du polar en Scandinavie est non seulement gigantesque, hein, puisqu'on a plein d'auteurs de polar suédois, norvégiens à gogo, mais c'est vrai que le crime posque, c'est le moment de remater tous les Hercule Poirot, qui sont déjà toute l'année à la télé, mais bon.
C'est un marathon, Hercule Poirot.
C'est un marathon criminel, ouais.
C'est fou, ça.
Ça fait
moi, je kiffe. Moi qui m'endors avec des crimes, avec des podcasts sur les crimes, je surkiffe Pâques pour ça.
Mais du coup, ils regardent ça. Est-ce qu'il y a une espèce de tradition derrière, de regarder ça vraiment en famille ou alors c'est juste
ouais,
chacun
ouais. Moi qui j'ai déjà fait des trucs avec des copains. Oui, il y a un moment où on va mater une petite série ou un petit film, ou alors il y a la copine qui va se lever plus tôt pour voir un replay de crime. Parce que bon, tu comprends, c'est Pâques, il faut qu'elle voie un polar, quoi.
Mais pourquoi Pâques? Pourquoi pas un autre moment?
Parce qu'ils se font chier, tout est fermé.
Ça
c'est vrai.
Tu es à la montagne, tout est fermé, il n'y a pas un magasin.
Il y a des jours où même la vente d'alcool est interdite.
Ah, complètement. Mmh. D'ailleurs, les auditeurs qui ne sont pas là depuis longtemps, attention, jeudi, vendredi, il n'y aura rien d'ouvert.
La semaine prochaine.
Réouverture samedi prochain.
Donc faites vos emplettes avant, achetez vos œufs. Ah oui, il paraît que. Parce qu'ils utilisent les œufs aussi pour les peindre. Il y a souvent une pénurie avant Pâques, donc si vous avez besoin de...
Ça, j'ai personnellement jamais expérimenté.
Au Danemark, c'était la catastrophe à chaque fois. Non. Avant Pâques, tu te retrouvais plus de...
Parce que pareil, ils...
Ouais.
Ah ouais.
Ils,
moi,
les,
je préfère
toutes
les œufs au chocolat,
Ouais. Mais du coup, autour de la table, est-ce que vous êtes attaché à des traditions quelconques à Pâques?
Ouais, repas de famille, quoi.
Ouais.
Moi j'ai envie de dire sur encore une fois un peu la bouffe. Hein, vois le justement la cuisse d'agneau de Pâques. Moi ma grand-mère faisait ça. Je retrouve ça en Scandinavie. Voire même, alors là pour le coup, vous avez dû remarquer dans les supermarchés qu'il y a des cuisses d'agneau dans tous les sens, quoi. Ouais, c'est la période dans laquelle on la trouve.
Ok.
Justement.
Alice. Alors moi non, parce que je suis pas très fan d'agneau. Qu'ils sont faits, en général, on se retrouve tous chez mamie et papy qui ont un grand jardin.
Et les poules.
Et mamie prend un grand soin à acheter la même quantité de chocolat décliné pour chaque enfant.
Oh.
Et tout caché dans le jardin. Et on va chercher les œufs. Et en grandissant, on laisse les petits trouver avant quand même. Même si j'ai du mal.
J'allais demander à quel âge as-tu arrêté de chercher des œufs, Alice ?
Je sais pas, je pense que ça faisait un moment. Ça fait un moment quand même, peut-être 15 ans, mais j'aime bien trouver mes œufs quand même. Je suis pas très contente quand ma soeur en trouve plus
même
que moi.
Un petit coup de main aux enfants ?
Non. c'est la chasse aux œufs en général, que ce soit chez mes parents ou chez mes grands-parents.
Ok. Valentin ? Dans repas de famille.
Ouais, repas de famille, chasse aux œufs, j'ai repris un peu pendant le confinement, quoi, en 2020.
Dans ton appartement.
Tu t'en es caché toi-même.
Voilà, on était deux, on s'est occupé, quoi.
Ouais.
Non, bah moi pareil, hein, on chassait les œufs quand j'étais petite. mais maintenant, non, maintenant c'est des crimes. Moi, je suis devenue norvégienne, vous savez.
Hercule Poirot, mais il y a quand même mieux qu'Hercule Poirot.
Mais ouais, mais écoute, quand on aime les histoires criminelles, on suit Affaires Sensibles, on s'endort avec Fabrice Jouel, Affaires Christophe Ondelat, tu vois, c'est...
D'ailleurs, pour faire un... Christophe Ondelat se plaint de la nouvelle version de l'émission.
Ah, mais Christophe Ondelat, il se plaint tout le temps. Hein. Je l'aime beaucoup, mais je...
Comment ça ? Ah, oh, j'ai oublié le nom de...
Ondelat raconte ? C'est... Non.
Faites entrer l'accusé. Oh, ouais. Ça m'avait sorti
de l'esprit. Ah oui, de la nouvelle version, là, avec la... D'ailleurs, je ne sais pas son nom à cette dame.
Je ne sais pas, parce que moi, je regarde des vidéos sur YouTube, par contre.
Ouais,
pas
moi
sur,
aussi.
Pas en podcast.
Je trouve
podcast et YouTube, quand je suis un peu déprimée, bim, un vieux replay sur Michel Fourniret. Et, et là, je reprends du poil de la bête, si je peux me permettre.
Je lave mes cheveux, moi. Le dimanche.
Ah ouais, t'étais un petit crime.
Ouais, parce
que
je pense
ma vie, elle est quand même pas trop mal.
C'est ça, exactement. Je pense que ça m'aide à relativiser sur le drame de ma vie à ce moment-là.
Ouais, moi, je fais ça aussi. Et à un moment, j'étais tellement obsédée par ça que ma mère me dit, mais tu vas jamais sortir de ta petite déprime si tu regardes ça toute la journée. Je sais, mais laisse-moi tranquille, je suis bien là.
Bon, bah alors, on souhaite à nos auditeurs des bonnes vacances de Pâques. Si vous ne partez pas, si vous restez sur le pays de Norvège, passez au ski. Attention aux magasins fermés pendant Pâques. Prenez vos emplettes avant. Faites
et
attention.
Si vous aimez le métal, allez au Inferno Festival, le plus gros festival de métal.
Il y a des places ?
J'imagine. J'imagine, j'aime pas le métal. Donc c'est pas ma scène. Mais en tout cas, Pâques, c'est quand même le moment où Oslo est ville morte, avec des mecs habillés en noir, ultra gentils en général. Rappelons, les mecs du métal sont sans doute le public le plus gentil du monde. Mais ils sont là, un peu corbeaux, comme ça, dans toute la ville. Ne soyez pas étonnés. Il y a le plus gros festival de métal à Oslo.
Voilà. Alors, nous, on va se retrouver dans 3 semaines. Donc, on ne va pas avoir d'émission la semaine prochaine. Mais on espère avoir encore plus d'auditeurs. C'était très sympa, en tout cas, de vous avoir tous les trois autour de la table.
Merci à toi.
Et bonne fête de Pâques à tout le monde.
Merci à vous. On se quitte avec Aurora et Pomme.
Sleeping in the seat next to me like a baby.